C'était pour un rapport qui s'appelle Reconsidérer la richesse, à l'époque où il existait un secrétariat d'État à l'économie solidaire. Et c'est une mission qui avait proposé à la fois une nouvelle approche des indicateurs de richesse et puis de la monnaie. Et qui a donné lieu à aussi une rencontre internationale qui a eu lieu en mars 2002 et qui a ensuite déclenché tout un tas de débats sur le plan international et sur la remise en cause des indicateurs de richesse dominants et notamment le fameux produit intérieur brut.
Oui, alors on sait qu'il y a une commission qui a été mise en place là, il n'y a pas longtemps, la commission Stiglitz.
Oui.
C'est la même chose, c'est les mêmes travaux.
C'est la suite de ce processus, c'est-à-dire au départ, peut-être plus agréable pour les personnes.
On va être sur.
Là, ça va très bien. Il faut bien voir que les personnes dont j'étais qui remettaient en cause l'approche traditionnelle de la comptabilité de la richesse, on était plutôt considérés comme des extraterrestres, ou comme des marginaux et des utopistes. Et puis, progressivement, ce qui s'est passé, c'est que, aussi bien la critique de ces systèmes dominants de représentation de calcul de la richesse que la nécessité d'une autre approche, bah, elle a fait son chemin, tout simplement parce qu'il y avait des éléments de réalité. Par exemple, il faut savoir que dans le système des comptabilités nationales, dont le produit intérieur brut est l'agrégat phare, comme on dit, vous avez quantité de richesses qui sont invisibles. Par exemple, toute richesse qui ne correspond pas à des flux monétaires. C'est le cas des activités domestiques, c'est le cas du bénévolat, c'est le cas de quantité d'échanges de savoir non monétaire. Tout ça, c'est de la richesse. Mais si ça ne s'exprime pas par de la monnaie, c'est invisible. Donc d'un côté, vous avez quantité de richesses qui n'apparaissent pas, et inversement, des destructions, des activités dangereuses sur le plan écologique, sur le plan social, peuvent apparaître positivement. À l'époque de mon rapport, j'avais pris l'exemple du pétrolier Lérica, qui, en sombrant, avait souillé les côtes bretonnes. Ben, du point de vue de la comptabilité nationale, Lérica, il produisait de la richesse, parce qu'il fallait remplacer le pétrolier, ben, ça faisait fonctionner les industries pétrolières et la valeur ajoutée des industries pétrolières, les assurances, même chose. Donc, il n'y a pas dans la comptabilité nationale une colonne particulière qui va vous dire, attention, ces valeurs ajoutées monétaires-là, elles sont liées à des destructions. Et inversement, les bénévoles qui participaient gratuitement à la dépollution des plages, eux, c'était des invisibles improductifs. Donc, vous voyez, des questions telles que les enjeux écologiques, les enjeux de ce qu'on appelle le capital social, que représente par exemple le tissu de la vie associative d'un pays, ça remplit une fonction considérable. À la limite, on peut vivre sans un gouvernement, la Belgique en fait la démonstration depuis plusieurs mois, mais si vous aviez une grève générale des associations, nos pays s'arrêtent. Or, tout ça est complètement invisible dans les systèmes de compte. Et bah, progressivement, même des institutions internationales aussi peu alternatives que la Banque mondiale, que l'OCDE, le Parlement européen également, ont reconnu et le bien fondé de la critique et du coup la nécessité de commencer à avoir d'autres indicateurs qui prennent en compte notamment les enjeux écologiques et sociaux. Et ça a duré pendant plusieurs années. Et puis, il est arrivé un moment où on a su que des gens comme Joseph Stiglitz, qui a été avec Amartya Sen, ils ont été les premiers prix Nobel hétérodoxes après une vingtaine d'années où on avait eu ce qu'on appelait les monétaristes, qui étaient tous les conservateurs ultralibéraux. Et il y a commencé à y avoir des prix Nobel hétérodoxes. C'était le cas de l'Indien Amartya Sen, qui avait été à l'origine des premiers nouveaux indicateurs qu'on appelle les indicateurs de développement humain. Et puis il y a Joseph Stiglitz. Et quand ils ont signifié que ces questions étaient des vraies questions et qu'il fallait travailler dans une autre direction, à ce moment-là, le président de la République actuel, à mon avis pas parce qu'il avait vu les enjeux de la question et parce qu'il se rendait vraiment compte de l'affaire, parce que s'il s'était rendu compte vraiment de ce que disait Joseph Stiglitz, qui est à peu près l'inverse de la politique économique et sociale du gouvernement actuel, il ne lui aurait pas confié cette mission, mais il était séduit, c'est Henri Guénaud, son conseiller, qui lui a dit, mais il y a deux prix Nobel au moins qui sont prêts à participer à cette commission, donc ça sera très flatteur pour la France. Bon, mais vous savez, l'histoire, elle avance souvent d'une façon complètement illogique et linéaire. L'important, c'était que cette commission Stiglitz, avec sa légitimité, et quelles que soient les critiques qu'on peut faire par ailleurs sur le fait que mettre des économistes et des statisticiens en chambre pour un débat démocratique, c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais ça avait l'immense avantage de dire ben, toutes ces critiques et toutes ces contre-propositions qui étaient considérées comme utopiques ou marginales, oui, elles sont véritablement fondées, et oui, il faut s'engager dans cette direction.